Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour cette troisième partie, nous allons quitter le domaine de l'IA pour parler un petit peu d'un sujet. Enfin, je crois que la première fois que je l'ai vu passer, moi, c'était sur la, on en parlait, c'était sur la chaîne de Le Grand JD. Mais évidemment, c'est un sujet qui en fait remonte à la nuit des temps, à savoir l'espionnage et les écoutes. C'est potentiellement une des questions les plus controversées qui revient le plus. C'est est-ce que nos téléphones nous écoutent ? Là, j'ai mon téléphone, vous avez votre téléphone. Est-ce qu'il y a une probabilité que là, à cet instant, le système d'exploitation ou des applications qui tourneraient sur notre iPhone ou notre Android soient en train de nous écouter ? Et le micro activé enregistre des données et les envoie sur le serveur de quelqu'un. Alors que ce soit le constructeur, que ce soit des méchants publicitaires ou que ce soit la NSA elle-même, la question se pose depuis longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests, il y a beaucoup d'expériences plus ou moins bancales qui sont menées, il y a beaucoup de trucs totalement fous qui sont dits sur ce sujet. Et moi, je pensais avoir tout savoir dessus. Je vais pas vous mentir, avant qu'on aborde la question, j'avais l'impression d'avoir une compréhension totale du truc, à savoir, mais non, pas du tout, c'est un truc de fake news, mais c'est juste le tracking qui marche super bien. Et bien, en fait, il se trouve que on a découvert des trucs, enfin Mathieu Duval nous faire découvrir des trucs qui vont peut-être remettre en cause
nos croyances, enfin nos certitudes.
Les certitudes que j'avais sur l'implausibilité du fait d'être écouté non-stop par des devices qu'on posséderait.
Et j'avais les mêmes certitudes que toi. Vraiment, j'étais sur la même longueur d'onde, plutôt convaincu par les arguments sur lesquels on va revenir sur a priori non. Nos smartphones ne nous écoutent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais pareil, j'ai découvert des choses qui ont mis du grain de sable dans mes croyances et qui sont venues un peu perturber tout ça. Et je voulais vous les partager aussi, avoir votre avis. Parce que vous allez voir que il y a des choses pas si simples, un peu croustillantes. Alors, on va pas vous démontrer que nos téléphones nous écoutent non plus, mais vous allez voir que c'est quand même étrange ce qui s'est passé. En plus, sur un timing très, il y a eu deux news coup sur coup d'un jour à l'autre. Sur des boîtes qui potentiellement seraient capables de nous écouter. Donc bref, je vais vous reparler de tout ça. Mais avant ça, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Robert Rive, qui en a fait un thread Twitter. Et en fait, tout simplement, il a passé une semaine chez sa mère, et voilà qu'à son retour, il reçoit des pubs pour un dentifrice, mais pas n'importe quel dentifrice, le dentifrice qu'il utilisait quand il était chez sa mère pendant une semaine. Et il est absolument sûr d'une chose, et on va le croire sur parole, il a parlé de cette marque avec sa mère, mais il ne l'a jamais cherché sur Google ou sur son téléphone, il en est sûr, surtout qu'une marque de dentifrice quand même, tu t'en rappelles. Donc, la question qui vient derrière, est-ce que mon téléphone m'écoute pour m'avoir proposé une pub sur ce dentifrice que je n'ai juste utilisé chez ma mère? Et pour en parler, on va évoquer quelles sont en gros toutes les possibilités qu'ont les marques, les GAFAM et les constructeurs de téléphones d'apprendre des choses sur nous. Et potentiellement, est-ce que ça veut dire que ce monsieur Robert Rive, il s'est fait écouter via son téléphone, ou plutôt ça serait d'autres méthodes? Et je sais, oui, dis-moi.
Juste pour bien comprendre ce qu'il expliquait, c'est que
c'était pas clair.
Non, mais en fait, donc il est arrivé en week-end chez sa mère. Il se souvient avoir parlé de son dentifrice, de sa marque de dentifrice, de l'avoir utilisé là-bas.
Pardon, c'est peut-être.
Il ne l'avait jamais lui-même cherché avant sur Internet. Il ne l'a pas acheté via son smartphone, etc. Et pourtant, il s'est pris des pubs juste après, c'est ça?
C'est ça. J'avais peut-être oublié une phrase, il se souvient qu'il en a parlé avec sa mère, mais il n'a jamais fait aucune recherche là-dessus. Juste, il a parlé du dentifrice avec sa mère quand il était en semaine de vacances, ou pas de vacances d'ailleurs, je sais pas, chez sa mère. Et une fois qu'il est revenu chez lui, eh ben, il a eu dans son feed Twitter, d'ailleurs, on voit la pub à un moment, j'espère qu'il l'a mis quelque part.
Ouais.
Mais en tout cas, ouais, voilà, et c'est celle-là. Il y a quelqu'un qui l'a retrouvé, il a dit « Ah, j'ai celle-là aussi sur mon compte Twitter ». Il a fait « C'est celle-là !» J'en peux plus de ce dentifrice. Et du coup, il s'est posé la question. En plus, il est un peu dans le game de la vie privée, etc. C'est quelqu'un qui travaille dans la tech. Il s'est dit « Est-ce que mon téléphone m'écoute ?» Et
mais...
avant d'arriver aux conclusions qu'il dit dans le thread,
oui, parce qu'en fait, du coup, effectivement, on a l'explication un peu simple qui peut faire un peu conspi, c'est évidemment, tu t'es fait écouter. Et ben, juste un truc qui est intéressant de regarder, effectivement, Rémi, t'as un peu fait des recherches là-dessus, mais c'est avant de d'explorer cette hypothèse-là, on va le faire, mais la question c'est, est-ce que ça aurait été possible d'avoir ce niveau-là de compréhension et de connaissance flippant hein, de tes sujets pour faire cette suggestion de pub. En gros, est-ce que l'hypothèse ce gars a été écouté à son insu a une hypothèse concurrente qui serait plausible ? Auquel cas, normalement, on devrait plutôt se fier à celle-là. La réponse ? C'est Rémi qui l'a.
Mais justement, j'ai voulu faire quelques petites recherches, et avant de lancer mes recherches, j'ai lancé un petit outil pour faire une expérience moi-même de mon côté. J'ai lancé un outil qui s'appelle Lightbeam, qui est une extension pour navigateur, et qui en fait va faire le travail de tous les sites que tu visites, c'est-à-dire répertorier tous les sites où tu es allé, et trouver les corrélations entre les sites que tu as visités. Comment tu peux aller relier, essayer de faire un graphe de ce que tu as visité, et comment on peut te retrouver. Donc j'ai lancé ça en fond, voilà, c'est l'outil sur Firefox pour le coup. Et j'ai commencé à faire un peu mes recherches sur comment fonctionnait le tracking sur Internet, qu'est-ce qu'on pouvait vraiment retrouver, et je vous montrerai.
Ah, donc t'as utilisé le navigateur, tu l'as lancé en fond et t'as utilisé. Okay.
J'ai commencé mon expérience, je l'ai lancé, et j'ai commencé à faire mes recherches pendant 2 heures à peu près. Donc, petit tuto sur quelle est la façon idéale de pister quelqu'un sur Internet. Parce que le but, en fait, c'est de retrouver la personne et corréler tout là, en fait, c'est de corréler les données. C'est savoir par quel site t'es passé, parce qu'un site te voit, un autre site te voit, mais comment tu fais le pont entre les deux. Pour ça, il y a un petit site qui est très sympa qui s'appelle amiunique.org qui permet de checker en fait qu'est-ce qui est unique sur ton ordinateur, qu'est-ce qui fait que tu es différenciable de toutes les autres personnes sur Internet et qu'est-ce qui fait que bah, dans une foule, t'es le gars avec la capuche rouge là qui fait qu'on peut pas passer à côté de toi, on peut te retrouver. Sur mon navigateur, j'ai trouvé un tas de fingerprints, donc de traces laissées par mon ordinateur. Alors, il y a les infos de base de bah, mon OS, c'est Mac, j'utilise Chrome, j'ai telle langue d'installer, donc déjà, ça restreint pas mal le scope.
Donc là, le pourcentage, ça veut dire ?
C'est-à-dire que là, sur, tu vois, alors je crois qu'on est à 2 millions de personnes, je suis unique. C'est-à-dire que les caractéristiques de mon ordi, même si c'est un ordi acheté en grande surface ou quoi, il y a suffisamment de choses assez uniques sur mon ordinateur pour qu'un site, s'il me voit et qu'un autre site me voit, ils peuvent comparer l'ordinateur qui s'est connecté au site et dire que c'est exactement la même personne.
Donc là, ça veut dire qu'il y a 9% des gens qui, comme moi, ont un Mac, 42% qui, comme moi, ont cette version de Chrome. Mais combiné...
C'est ça, si tu croises toutes ces infos-là, ça devient très très unique.
Et là, je pense qu'ils mettent les 4 principaux, voilà. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et
justement, il y a des catégories bien plus intéressantes que simplement ton navigateur, ton OS. Typiquement, le langage que tu as sur ton ordinateur, les polices d'écriture installées.
Oh.
La résolution de l'écran, si tu as acheté un écran un peu bizarre, gaming ou quoi, bah t'es peut-être dans les 1% qui ont acheté exactement le même écran que toi.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Tor, c'est le ouais. Navigateur Tor, il te conseille de réduire, enfin de changer la taille de ta fenêtre.
Oui, c'est vrai.
Jamais être en plein écran, sinon tu leaks la résolution de ton écran.
Oh là là.
Je donne des infos sur toi. Plus vicieux, les appareils connectés à ton ordinateur. Si t'as un casque d'une certaine marque et un microphone à côté, bah tu deviens encore plus unique. Même le fuseau horaire. Enfin voilà, plus on avance dans les options, plus on multiplie tout ce qui peut être collecté sur toi et croisé pour te rendre unique sur Internet.
T'as les codecs qui sont dispo. Enfin, t'as vraiment tout. Quoi.
Voilà. Donc
Et j'ajoute qu'il y a exactement la même chose sur nos téléphones, et on peut faire une empreinte de nos téléphones, et il y a des développeurs d'applications qui, quand Apple a déployé sa mise à jour, qui demande à chaque fois qu'on lance une nouvelle application, est-ce que vous autorisez à nous traquer, qui étaient bien embêtés parce qu'ils ne pouvaient plus tracer les utilisateurs via des techniques plus classiques de cookies ou etc. Et ben ils se sont mis à utiliser les empreintes de nos téléphones. Alors parfois ils se sont fait choper par Apple, parce que je crois que c'est interdit par les conditions d'utilisation. Mais du coup ils se sont dit, bon, comment on fait pour traquer nos utilisateurs ? C'est pas on va arrêter de les craquer parce que c'est leur business model, sinon ils s'écroulaient. Ils se sont dit, ok, on va utiliser l'empreinte des téléphones. Et c'est la même chose, sauf que c'est pas un navigateur, quoi. Ils sont capables de faire ça aussi sur nos téléphones. C'est pas pour vous faire flipper, hein, mais...
Donc ça, c'est la première partie. OK, chaque site est capable de retrouver une personne, mais maintenant, comment est-ce qu'on connecte toutes les données? Comment est-ce que les sites vont communiquer entre eux et centraliser? Il n'y a pas un contrat où tous les éditeurs signent un contrat avec tous les autres sites pour se mettre d'accord et se refiler les infos et les revendre individuellement.
Il y a le sang.
Voilà. Il n'y a pas un pacte secret.
Comment?
On n'est pas dans ce niveau de complot. Non, il y a des solutions très simples. On prend les deux géants de la pub, et des réseaux sociaux, etc., Google et Facebook. Ils sont, en fait, indirectement présents sur tous les sites. Facebook, simplement, en ayant, par exemple, un bouton like sur une page, bah, du coup, a une trace de Facebook sur le site et donc va pouvoir récolter des informations sur ton navigateur. Ils fournissent également beaucoup d'outils. Si vous avez des sites internet que vous voulez suivre, des analytics pour savoir ce que...
Pixel ?
Voilà,
le pixel Le pixel Facebook
et les analytics Google. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la présence de ces deux-là.
Mais je ne réalisais pas quand même.
Voilà, sur le top 75 000 des sites, donc les 75 000 sites les plus populaires sur Internet, 86% ont des éléments provenant de Google et 34% provenant de Facebook.
C'est
gigantesque.
Ce sera le gars qui a inventé Google Analytics. Il réalisait pas la thune qu'il allait rapporter.
Et le pixel Facebook aussi. En vrai, là, on le compare, mais c'est...
C'est dingue.
Ils sont présents partout, quoi.
Et du coup, je vais vous donner une façon sympa de le visualiser. En ayant fait mes recherches, voilà ce que moi, j'ai obtenu avec mon extension. Alors, petit disclaimer, c'est une extension qui est plus très à jour, donc j'ai pas eu accès à tout le détail des sites. Mais ce qu'on voit, si je connecte les sites que j'ai visités, donc... Dans mon exercice, j'ai pris que DuckDuckGo. J'ai essayé de prendre des sites respectueux de la vie privée. J'ai visité quelques pages d'articles de presse et des choses comme ça. Et pourtant, dans le graphique des sites qui ont été détectés par mon extension, on retrouve Facebook avec plusieurs domaines. Il y a plusieurs petits F qui traînent.
Ouais.
On retrouve Google, alors que je n'ai absolument pas navigué sur Google. Et on retrouve, alors je me souviens plus... Ah oui, il y a AdSense. Il y a des petits logos en bas qui viennent justement des services de Google.
On dirait un logo Monero, là.
Et la taille des bulles reflète le nombre de connexions. Donc, on voit qu'en fait, les sites que j'ai visités, c'est minoritaire. Et tout ce qui est Google, c'est pas juste il y a un ou deux appels qui sont passés en Google en soupçon en fond. C'est vraiment la majorité de mes connexions, en fait, ont été interconnectées avec ces services-là, quoi.
Ah, c'est NDR. Donc, en fait, ton historique, il faut vraiment plisser des yeux pour le voir.
C'est ça.
C'est trop marrant.
Il est effacé au milieu de tout le trafic qui est lié au tracking et tout ce qui remonte chez Facebook directement.
Ah oui, c'est dingue.
Faut dire que les articles de presse, les sites de presse, c'est un peu les pires.
Ouais.
Non, parce que
ils sont pollués à mort.
T'as l'impression aussi que t'es pas vulnérable. Tu dis tant que je suis pas sur Google et tout, on sait que Google connecte énormément de choses, Facebook aussi. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est que sans être sur ces sites-là, en fait, t'es quand même connecté à eux, sans t'en rendre compte. Donc c'est pas seulement ton comportement sur les sites normaux. Même si tu refuses parfois les cookies, t'as quand même plein de choses qui partent à droite à gauche.
Et donc ça, c'était le tuto.
C'était le tuto sur quelle est la meilleure façon de récolter des données. Et derrière, il y a pas mal d'IA de modèles. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des informations, mais c'est sur comment Google va essayer de corréler tout ce qu'il a remonté. Une des problématiques principales, c'est comment mettre des utilisateurs par catégorie et les lier entre eux. Peut-être que toi, tu n'as pas directement chercher cette marque d'antifrice ou quoi, mais peut-être que t'as d'autres personnes qui ont fait dans ta famille, qui sont allées en racheter ou quoi, et en fait le principe des publicités, c'est pas mal de regrouper les personnes par centre d'intérêt, et de se dire tiens, si cette personne-là, ça a l'air d'être quelqu'un qui prend soin de sa santé ou quoi, elle est susceptible d'acheter les mêmes choses que ces autres personnes qui se comportent de la même façon sur internet, et donc tu vas lui proposer les mêmes produits. Et j'avais pas réalisé aussi la façon dont en fait tu peux lier des personnes entre elles. On se dit ok, peut-être qu'elles sont à la même adresse, elles ont la même géolocalisation, il y a probablement un lien. Mais juste, je sais pas, sur Amazon, si tu mets la même adresse de livraison de quelqu'un, du coup tu vas pouvoir lier deux profils alors que c'est une info innocente que t'as mis à l'endroit.
J'avoue, c'est clair. C'est deux. Il suffit que deux sites aient fait livrer
un produit au même endroit
et ils ont un lien entre deux personnes.
Un bridge entre deux personnes directement. Ou tu vas, de temps en temps, tu rentres chez tes parents, donc tu auras la même adresse IP, tu peux forcément lier des choses.
Très rapidement. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, effectivement. Je racontais que j'avais fait une interview d'un gars qui avait travaillé dans un passé révolu dans le marché très shady du retargeting. Donc, qui est concrètement toute l'industrie autour du fait de suivre les gens, de les traquer dans leurs déplacements et de leur proposer un produit à un endroit qu'ils ont cherché à un autre, etc. Le truc qui nous fait tous chier. Cette industrie, ça s'appelle le retargeting. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de soucis à cause de Google parce qu'ils sont en train de manger tout.
Ok.
Ouais, parce qu'en fait, Google, ils sont en train de tuer le retargeting en tuant les cookies tiers.
Oui, c'est vrai.
Mais eux, ils s'en foutent parce qu'eux, personnellement, n'en ont pas besoin. Bref.
Ouais, ils ont fait des mises à jour là-dessus très récemment.
C'est très intéressant. Mais ce sera pour une autre fois. Mais ce gars que j'avais interviewé à l'époque, je crois que la vidéo, ça s'appelle J'ai invité un growth hacker, je crois, que je l'avais appelé comme ça.
Oui, c'est vrai.
À l'époque où ce terme était très peu connu et moins.
Ouais, tu moins l'appellerais galvaudé. Plus comme ça aujourd'hui.
Non, c'était moins galvaudé à l'époque. Mais concrètement, c'était un ancien gars qui, un peu un repenti, on va dire, de l'industrie du tracking. Et il m'expliquait que si t'as deux appareils qui sont sur le même réseau local, donc un truc hyper innocent, t'es sur le même wifi que ta famille, tes parents, etc. C'était très probablement pris en compte dans le nuage de points, dans le petit fichier qui fait ton profil. C'est hyper fourbe parce que c'est très compliqué à prouver. C'est-à-dire que comme c'est beaucoup de modèles de deep learning, etc., et qu'en gros, on te récolte une quantité de données et après on fait du matching pour t'associer à des cohortes, comme t'expliques, etc. C'est très dur d'être 100% sûr de prouver que quelque chose est vraiment advenu. Mais ce qu'il me disait, c'est que le réseau sur lequel tu te trouves peut permettre de faire des corrélations entre toi, ce que tu as fait comme recherche, toi, tes habitudes, et celles potentiellement de ta famille, etc. Ce qui me fait me dire que cette personne sur son Twitter, une potentielle explication, moi, j'ai pas vu la suite, hein, donc tu vas nous en parler, mais une potentielle explication, ça pourrait être que, en fait, on ne l'a pas écouté. C'est-à-dire qu'il a peut-être verbalement prononcé le nom du dentifrice, mais c'est sa, par exemple, sa maman qui était là dans la maison, qui, elle, l'a acheté il y a 10 jours, ou il y a un mois. Et il y a eu une détection, on va dire, il y a eu une détection de proximité qu'ils appartiennent au même groupe familial. Et bam, il s'est fait retargeter par ricochet, on va dire, via ses similitudes. Et c'est brainfuck parce que tu te dis, attends, mais il y a pas d'autre explication que qu'un microphone. Mais en vrai, quand tu connais les capacités de ciblage qu'ont ces géants, eh ben c'est peut-être pas la seule solution, ouais.
Ben complètement. Il y a d'autres façons de faire que d'écouter les gens et qui sont en fait bien plus paradoxalement bien plus probables techniquement qu'ils aient fait. Et donc c'est ces choses de retargeting. Et en fait, ce Robert Reeve, il arrive aux mêmes conclusions que vous, c'est-à-dire que lui et sa mère, chacun de leur côté, sont extrêmement suivis, que ça soit par les médias sociaux, le pixel Facebook, l'analytics sont à parler, les applications, tous les identifiants uniques. Vous parliez, moi ça m'a fait, quand vous parliez des identifiants uniques, ça m'a fait penser quand on donne son mail ou son téléphone à une supérette pour une carte fidélité. Ça paraît anodin, tu fais une carte fidélité, ça va t'apporter des choses et tout. Mais en fait, ce numéro et ce mail, c'est des identifiants uniques qui, si quelqu'un achète des données, si une supérette ou Carrefour achète un lot de données publicitaires, et bien peut-être que vous êtes dedans, ils font le lien avec votre compte et en fait, ils ont plein d'infos sur vos recherches internet. Donc en fait, tout ça va très vite. Et tu l'as dit, le fait que les groupes, d'ailleurs, il y a une enquête qui est absolument passionnante, ça s'appelle The Privacy Project. Je crois que c'est une enquête du New York Times qui, en fait, prouve par A plus B qu'on peut suivre des gens grâce aux données Internet. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça pourra en faire l'objet d'une chronique, mais on est en capacité, juste avec des données Internet, sans écouter les gens, de traquer des gens, de savoir où ils vont et de savoir avec qui ils sont. Et en fait, comme tu l'as dit, avec des téléphones à proximité l'un de l'autre, que ça soit par des réseaux Wi-Fi, par potentiellement du Bluetooth, tout ça, ce sont des suppositions, mais on voit bien ce qu'ils arrivent à faire, que ça soit des coordonnées GPS. On arrive à reconstituer le réseau de personnes en contact avec une autre personne. Et donc, du coup, il suffit de croiser ces informations. J'en viens à la conclusion de cette affaire de Robert Reeve et de dentifrice. Il conclut en disant ça. Donc, ils connaissent le dentifrice de ma mère. Ils savent que j'étais chez ma mère parce que nos téléphones étaient au même endroit. Ils connaissent mon Twitter parce que tout ça, ils sont reliés à son compte, évidemment. Maintenant, je reçois des publicités sur Twitter pour le dentifrice de ma mère. Tout ça, c'est bien plus probable techniquement que je me suis fait écouter, mon téléphone a écouté les conversations que j'avais avec ma mère. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît très... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un expert du sujet qui parlait là, même s'il bosse pas chez un GAFAM. Un peu comme un hacker qui se fait hacker, il va très bien savoir comment ça fonctionne.
Parce que si on s'arrête en fait deux secondes...
Sur la faisabilité technique.
La faisabilité technique d'écouter à très très grande échelle des micros. Alors, depuis récemment, on commence à avoir des modèles de speech to text qui commence à être plutôt performant et plutôt qui pourrait même tourner en fait en local sur l'OS. Et bon, ça commence à devenir un peu plus probable, mais en tout cas sur les 10 dernières années, processer de l'audio de tous les appareils du monde en simultané sur des serveurs, les traduire en texte, en donner en sortir des informations sémantiques dans la masse de tout ce que vous faites dans votre journée. Sur des habitudes, sur des caractéristiques commerciales intéressantes, c'est totalement impossible en fait. Genre c'est même pas dans la sphère du possible en termes de puissance de calcul et en termes de rentabilité tout simplement. C'est même pas que c'est pas juste pas faisable. C'est juste que s'il y a une autre solution qui marche plutôt pas mal, et il y en a, ce serait totalement absurde en fait de faire de l'écoute à grande échelle.
Je me dis aussi que si ton téléphone envoie que ce soit du texte qu'il a analysé ou directement les audios, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait analysé le trafic qui sort de son téléphone et qui aurait dit, les gars, il y a un truc un peu suspect, et ça serait parti en turbo procès contre Google parce que c'est pas du tout un truc qui était censé faire, quoi.
Et d'ailleurs, ça a été fait, il y a plein de gens qui ont analysé les requêtes qui sortaient d'un téléphone ou d'un appareil pour savoir s'ils écoutaient, et ils ont jamais réussi à trouver qu'un appareil les écoutait alors qu'ils devaient pas les écouter, parce que parfois, quand on donne une instruction à Siri, on a envie que ça soit écouté, on sait que la requête parte. Non, mais c'est quand même important de le dire. Mais du coup, on en est donc à ce point-là où, globalement, les téléphones n'ont pas la nécessité de nous écouter parce qu'ils ont d'autres manières très efficaces de le faire, comme tu le disais. Deuxièmement, techniquement, c'est très complexe de traiter autant de data, comme tu le disais. Et en plus, ça serait beaucoup trop cher, même si potentiellement, ils savaient le faire. Donc, on en vient à même si ça n'a jamais été prouvé d'une main de fer de Dieu, non, personne vous écoute via vos téléphones. On en vient quand même à la conclusion de gens qui connaissent un tout petit peu comment fonctionnent les téléphones. A priori, vos téléphones ne vous écoutent pas quand vous ne le désirez pas. Tout petit aparté, il y a eu des bugs avec Tiffany, mais vous inquiétez pas, le chat.
C'est quoi les bugs avec Tiffany ?
Je sais pas, mais il est sur le coup.
Je ne peux rien faire. L'ordi de rendu parfois pète les plombs et nous sort les rendus de l'émission d'il y a deux semaines.
D'accord.
Je n'ai pas d'explication, mais du coup ça fait trois fois que les gens voient Tiffany passer. Et ils sont en mode, c'est bien la preuve que c'était une rediff.
Mais oui.
Voilà. Là. Bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai rien fait.
C'est quoi ce bordel ?
Et est-ce que c'est grave ou on a les rushs?
On a les rushs des caméras normalement qui enregistrent.
Non, mais on dirait que c'est une des caméras. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est que la caméra sur toi en plan serré, Mickaël.
On a une caméra qui est hantée dans le studio.
Mais parfois, elle revient normale.
C'est tellement bizarre. Bon,
profitez de votre protection. J'y fus, lol. Tiffany, ouais.
Tiffany pirate le lag.
Ah oui.
Voilà, Tiffany, elle est pas là.
Mais du coup, apparemment, parfois, genre, t'es en train de parler.
Ouais.
Si ça se trouve, t'as un plan d'écoute. Bah là, genre là maintenant.
Mais j'en ai vu plein. Hein.
Non, mais c'est à
depuis
chaque fois que
tout à l'heure,
je
suis trigger.
Non, parce que juste avant, on te voyait parler, toi. Ah, mais t'as le même haut.
Bon, alors on passe en mode.
Ouais, j'ai le même haut. Là, c'est
non, là, c'est toi, là.
C'est tellement bizarre. C'est tellement perturbant.
Tiffany rend le live.
C'est vrai qu'il y a. What the fuck. Non, mais c'est tellement bizarre.
Non, si tu veux, pardon.
Par contre, j'avais pas retenu. Mais je pensais que c'était l'ancien décor. Bref.
Je me tais. Du coup, je parle plus.
Oh, bah si, quand même. Donc, j'en venais à cette conclusion que, a priori, les téléphones ne nous écoutent pas. Et c'est ce qu'on pensait globalement dans l'équipe. On est plutôt convaincus par cette version. Jusqu'à il y a quelques semaines, où je suis tombé sur deux articles de journalistes qui ont enquêté des journalistes de 404 médias. Et ils ont sorti deux articles qui vraiment... On semait la pagaille dans mes croyances et dans ce que vraiment je pensais au plus profond de mon être sur ce sujet.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Ils ont fait un article sur une société qui s'appelle CMG, C'est une société de marketing qui appartient à un très grand groupe, Cox Media Group. Donc c'est un média, c'est un groupe pardon, qui rassemble en même temps des médias, en même temps des régies pub et en même temps qui collecte des data pour pouvoir avoir toute la chaîne de valeur et donc vendre de la publicité à des médias. Et en fait, ils sont tombés sur une page web et un document. Ils en ont fait un archive parce que depuis, il a été supprimé. Qui disent noir sur blanc, oui, vos téléphones vous écoutent. Mais en fait, ils en font un argument marketing pour leurs clients en mode, oui, oui, vos téléphones nous écoutent. Nous avons accès à ces datas et nous pouvons vous les vendre. Et ils ont appelé ça le active listening en non marketing. Ils ont même une section sur le document, peut-être qu'on va pouvoir voir. Ils demandent est-ce que c'est légal ? Ils disent oui, c'est tout à fait légal. Vous avez signé des conditions d'utilisation qui nous autorisent à le faire, sur vos téléphones. C'est un document,
un aveu
et enfin, ultra vendeur. En fait, c'est quasiment une page de vente. Et si on peut revenir sur l'article, en gros, à quoi ça servirait de nous écouter? Ils prennent des exemples d'utilisation et ils disent, ben voilà, par exemple, le contrat de location de la voiture se termine dans un mois. Nous avons besoin d'un nouveau plan de location. Si quelqu'un dit ça, ce groupe CMG est en capacité de le savoir et donc du coup
d'aller prévenir, de
cibler une pub et d'aller prévenir quelqu'un. Pareil pour, tu vois, il prend l'exemple d'une mini fourgonnette serait parfaite pour nous. Ils imaginent des conversations. Est-ce que je vois de la moisissure au plafond? Là, vraiment, je vous cite ce qu'ils disent dans leur papier.
Donc, tous les moments où, dans ta vie tous les jours, tu pourrais émettre des besoins, en fait, t'aurais une pub associée.
Oui, sauf que c'est très mal écrit. Nous avons besoin d'un meilleur taux hypothécaire. Personne ne dit ça dans la vie. Même si j'ai traduit de l'anglais, mais quand même. Ce qui est encore plus étrange, c'est que CMG a des partenaires, et parmi ces partenaires, il y a Google, Amazon et Microsoft. Et donc, du coup, les journalistes se sont dit, bon, on va aller demander trois sociétés ce qu'ils en pensent de cet article qui, depuis, n'est plus en ligne. C'est disponible sur WebArchive. Microsoft n'a pas commenté. Pourquoi pas? Google a déclaré, depuis des années, Android empêche des applications de collecter des données audio lorsqu'elles ne sont pas utilisées activement. Et chaque fois qu'une application active le microphone d'un appareil, une icône est visible dans la barre d'état. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vraiment répondu à la question « Est-ce que vous êtes bien en partenariat, vous fournissez bien des données ou alors on vous fournit des données à CMG ?» Ils ont juste répondu que non, mais vous inquiétez pas, il y a une icône sur Android. Et Amazon, pour le coup, a été plutôt clair, le produit publicitaire décrit ne serait pas possible avec les appareils Echo. C'est un peu les seuls à avoir vraiment démenti. Depuis, CMG a déclaré que oui, mais en fait non, on n'écoute pas vraiment les conversations, mais on agrège un ensemble de données et dans ces données, il y a de la voix, mais c'est des tiers qui les récupèrent. Ils ont un peu botté en touche, alors que vraiment dans leur document, il y a vraiment marqué noir sur blanc, oui, les téléphones vous écoutent. Après, ils ont un peu... Les pages ont disparu et puis ils ont fait un communiqué pour, ils disent, les données publicitaires basées sur la voix et d'autres données se collectaient par des plateformes et appareils qui ne nous appartiennent pas, globalement. Je paraphrase un peu ce qu'il dit parce que c'est en anglais. Mais tu te dis, bon, ok, d'accord, très bien. À ce moment-là, en fait, moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être un commercial ou un marketeur qui s'est plus anti-pété, il a mis en ligne un nouveau service et c'est un petit peu bidon. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on le voit.
On dirait presque un troll en fait.
C'est un peu un troll.
Moi j'aurais fait cet article.
Le pavé dans la mare.
Si je voulais semer un vin de panique sur une, surtout qu'il y a un terrain. Ça fait des années que les gens font des théories en mode. Ouais. Bah, peut-être qu'on nous écoute.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'est l'article parfait juste pour foutre le panique.
Exactement. Et ce qui est un peu bizarre, c'est la réponse des Microsoft et Google qui est pas. Tu te dis quand c'est si important, tu démens directement tout de suite, un peu comme l'a fait Amazon d'ailleurs. Mais bon, honnêtement, à ce moment-là, j'étais pas vraiment convaincu. Mais en fait, enfin, je ne suis toujours pas convaincu, mais j'avais. Mon doute émis était ok, j'ai plutôt confiance en le journaliste de 404 médias, donc quand même j'avais un doute, mais c'était pas très grand. Et en fait, un ou deux jours après, d'ailleurs, je crois que c'est très rapidement, les mêmes journalistes publient un nouvel article, mais sur une entreprise complètement différente et qui n'a rien à voir avec CMG. Ça s'appelle Minsift. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une société complètement antinomique à CMG, c'est-à-dire que c'est une toute petite société. c'est une start-up qui se lance, ils n'ont aucun lien de base avec un média ou un grand groupe, donc ils ne récoltent pas déjà des milliards de données sur les gens. C'est vraiment
la petite boîte.
La petite boîte. Et eux, pareil, exactement le même truc. Ils affirment de but en blanc utiliser les données du microphone des smartphones. Mais vraiment, cache quoi. Je cite. Et est-ce que vous. C'est une interview d'un des mecs de Mindshift dans un podcast qui est vu par 50 personnes. Vraiment, encore aujourd'hui, les vidéos YouTube, elles sont dispo. Et c'est vu par 40-50 personnes. Est-ce que vous avez déjà parlé de quelque chose et vu une publicité? Donc là, il imagine une conversation. Et est-ce que vous avez déjà parlé quelque chose dans la rue et vous avez vu une publicité pour ça? Eh ben c'est nous, les gars, qui faisons ça. Nous distribuons la technologie. La technologie existe depuis un certain temps, mais on a passé le flambeau à une autre entreprise. Un mec un peu marketing dans sa façon de parler, qui parle bien et qui dit « je vais révolutionner le monde » si je vous fais le profil psychologique de la personne. Ça, c'est en interview. Sur le site web, pareil, même affirmation. Je cite « oui, vos appareils vous écoutent ». Avec un smiley. et à quel but? Pour mieux comprendre le comportement et les intentions du consommateur. Bon, ça, c'est toujours la même excuse. Mais globalement, ils se targuent de pouvoir savoir quand quelqu'un est sur le marché pour un produit ou pour quelque chose. Par exemple, je sais qu'à un moment, il prend un exemple, lui dit, si tu dis suffisamment proche de ton téléphone que mon toit fuit, eh ben nous... Chez nous, ça crée une opportunité de vente et on va pouvoir créer une publicité Facebook ou Insta derrière. Ça, il l'a dit dans son podcast. Et d'ailleurs, du coup, les gens de 404 Media ont contacté Facebook, qui n'a pas souhaité répondre à cette question. Moi, ce qui m'a encore foutu... Alors ça, ils sont passés dans ce podcast-là, exactement. Sur leur page web, il y avait des témoignages de clients. Et parmi les clients, il y avait quand même BMW, Hotel.com, Apartments.com, donc ça je connais pas, et des associations et des entreprises américaines un peu moins connues, Mother Against Drunk Driving, donc j'imagine que quelque chose qui lutte contre l'alcoolisme au volant. Petit bémol quand même, ils étaient cités en tant que clients de cette boîte, Mindshift. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, Mindshift, je pense. Mais on sait pas si c'est parce qu'ils utilisaient ce service-là ou si c'était une autre collecte de données. Donc, enfin voilà, on sait qu'ils sont fourbes.
On sait qu'ils bossent avec des gens qui écoutent les téléphones.
Beaucoup d'éléments commerciaux.
Ouais, et ça, pour le coup, avec des clients qui peuvent être intéressés par ce genre de données. Hotel.com, t'es intéressé si tu veux prendre un hôtel. Ah, là, c'est
si
plus des clients.
En vacances au Portugal, et bam,
exactement. Et donc, ouais, donc, du coup, il y a ce fameux podcast où vraiment, il parle... sans aucun filtre. Depuis, les podcasts n'ont pas été supprimés, mais les infos, le site web, ont été supprimés. Et globalement, les journalistes de 404 Media, ils ont contacté toutes les entreprises citées, que ça soit dans le podcast ou sur le site web, etc. Toutes les grosses entreprises qu'on connaît, donc les GAFA, mais aussi Hotel.com, etc. Et ils ont eu aucune réponse. Ils ont eu aucune réponse. Et moi, ce qui me perturbe un tout petit peu, alors c'est déjà, ça fait deux exemples en très peu de temps, d'agences marketing, globalement c'est ça, hein, c'est des agences marketing qui collectent des données et qui cherchent à targeter, comment on dit en français, à cibler, merci, de la pub. Et moi, je me dis que sur un sujet aussi sensible, quand il y a des journalistes qui te contactent, alors que t'as toujours voulu pour ton business ne jamais dire que tu écoutais les gens, non, je sais pas pourquoi. Moi, je me dis que tu devrais démentir normalement ce genre d'informations. Et ils sont personne, ou alors tout le monde s'est mis d'accord en mode non, on démord rien du tout, on préfère ne rien dire plutôt que démentir. C'en est fini pour la révélation, mais du coup, moi, ma conclusion, je vois deux possibilités. Soit c'est vraiment des commerciaux qui ne savent vraiment pas ce qu'ils vendent. Et du coup, qui raconte un peu n'importe quoi.
Ils ont fait la plus grosse connerie du siècle.
Ils ont fait la plus grosse connerie du siècle. Mais du coup, ils l'ont fait deux fois sur, a priori, deux entreprises qui n'ont rien à voir. Soit, et c'est ce que certains évoquent, les capacités techniques ont évolué depuis, notamment grâce à l'IA. Il y en a qui disent que potentiellement, on peut détecter les moins intéressants et process uniquement... ce que on trouve opportun, évidemment qu'on va pas tout analyser sur des milliards d'enregistrements audio, mais potentiellement la capacité technique serait différente qu'il y a quelques années. Et du coup, ça serait, entre guillemets, devenu possible d'inclure dans des datasets destinés à la publicité, d'inclure des données de voix. Je pense qu'il n'y a aucun monde où c'est généralisé à tous les devices. Ça, évidemment que non, on le saurait. Mais juste que c'est très étrange, juste avant Noël, d'apprendre que deux sociétés qui n'ont aucun lien disent noir sur blanc, vos téléphones nous écoutent.
Mais c'est...
Avec une insolence pareille.
Mais franchement, sur l'aspect technique, je trouve ça plausible. Hein, parce que depuis récemment, ce qu'on se disait, c'est que les modèles pour faire de la transformation d'audio en texte directement, en local sur des devices, ils sont en train de devenir vraiment tout petits et très très précis. Et donc actuellement, tu peux avoir des... Donc on parlait de Whisper, qui est un des plus connus. Whisper est décliné en plusieurs versions. Donc tu as les versions larges, qui là pour le coup demandent quand même un peu de puissance de calcul, etc. Et c'est décliné en versions médium, petit, etc. Et tu prends une version médium ou petite, mais spécialisée en anglais par exemple. Et vraiment, ça pèse rien, ça coûte quasiment rien sur le CPU et c'est ultra efficace pour faire de la transcription d'heures complètes d'audio, quoi. Complètement local. Et pareil, tu peux imaginer les... Alors, si c'est pas le cas, peut-être que je vais donner des idées, je vais fermer ma gueule, mais pareil, en fait, des modèles de NLP, alors que ce soit des modèles récents de LLM, mais même d'autres en réalité, qui seraient capables de, dans cette masse d'informations de toute votre journée, de tout ce que vous avez dit, aller détecter les passages qui sont intéressants sémantiquement et qui peuvent se rapporter, ce qu'on se disait avec une intention d'achat ou un problème.
C'est les deux exemples souvent qui sont pris.
Exactement. Et ben, paradoxalement, cette question et cette question un peu conspi depuis 10 ans et serait peut-être en passe de devenir de moins en moins conspi, car de plus en plus faisable d'un point de vue technique avec les évolutions récentes de l'IA, quoi.
Et tu parlais de Whisper, et juste pour bien que tout le monde comprenne, le traitement peut être fait en local et les données peuvent être envoyées comme du texte, pas comme de la voix. Donc, alors. On n'enverrait pas votre voix à ces services-là, mais on enverrait le contenu de votre voix en texte, donc ça reviendrait à se faire écouter. Et ça, si un modèle, comme tu le disais, est capable de tourner en local, bon, je pense que quand même ça se verrait sur un téléphone qui est ciblé, qu'un Whisper, entre guillemets, tourne. Mais on ne sait pas, dans quelques mois, peut-être que ça se verrait plus trop, ouais.
Ouais, il y a peut-être des use cases qui ne sont pas forcément en local. Tu parles à un assistant vocal, ça va être envoyé sur un serveur pour être processé et t'attends que ton LLM te réponde ou quoi, mais t'as envoyé de l'audio et du texte et t'as parlé de trucs à ton assistant. Tu t'es sur une appli où tu te filmes, enfin la TikTok ou quoi, la vidéo elle est partie, elle est processée, donc même si tu le veux pas, il y a quand même quelques cas où t'es écouté, mais c'est volontairement, mais juste c'est pas forcément ce qu'il y a derrière.
Et ça, je trouve ça intéressant quand même d'en parler, parce qu'effectivement là, on parle du cas où...
Tu dis pas OK Google.
Exactement, tu dis pas au bip Google, tu te fais pas... où t'as pas conscience d'être écouté. Donc, ça, effectivement, c'est le côté le plus flippant. Mais il y a une autre variante de ça, qui est, comme tu le disais, que ton message vocal que tu vas envoyer sur ton appli... de messagerie, ou alors ta vidéo que tu viens d'uploader sur TikTok ou un truc comme ça. Jusqu'à présent, en vrai, la plupart des chercheurs, etc., étaient d'accord pour dire que c'était assez improbable qu'il soit analysé en temps réel pour des histoires techniques, pour des questions techniques, que ça demanderait trop de puissance de calcul, etc. La NSA, a priori, ne pourrait pas le faire. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est en train de changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu fais le calcul, c'est de moins en moins improbable d'avoir une connaissance à la fois textuelle, bon ça on sait qu'ils le font depuis 2013, mais bientôt de tout ce qui est audiovisuel, à savoir média, audio, vidéo. C'est un truc dont on ne parle pas du tout dans les récentes évolutions de l'IA, des nouveautés, mais qui est bien réel, à savoir les capacités de surveillance vont être décuplées. Ça vaut pour les... On parlait de vidéos sur TikTok, etc. Ça vaut aussi en termes de vidéosurveillance, où j'ai vu des démonstrations d'outils de vidéosurveillance qui étaient un peu archaïques, en fait, quand on s'imagine la vidéosurveillance d'il y a encore quelques années, où t'as un début de reconnaissance faciale, où tu commences à avoir des trucs vraiment sympas quand même, en Chine, etc., ou même sur des boîtes de sécurité américaines, il y a des résultats intéressants. Mais ce n'est rien à côté des outils actuels et futurs qui vont intégrer notamment des IA de multimodales, donc comme les nouveaux GPT-4, qui peuvent avoir une compréhension super fine de ce qui est en train de se passer dans une vidéo. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Ok, machin qui a telle identité vient d'effectuer telle action, il porte tel vêtement, tel sac, il se rend de tel à tel endroit, on imagine qu'il est probablement en train d'aller prendre l'avion. Enfin,
bah, il y a des applications qui tu lui montres un vêtement et tu peux lui dire avec quoi tu me conseilles de porter ça. Alors c'est trop bien, mais ça te donne un nombre d'informations sur toi. Je rebondissais, pardon, mais
non, c'est clair.
Mais là-dessus.
Et en gros, tout ça pour dire que si vous trouvez ça encore un peu ridicule de se poser des questions sur la surveillance de masse, etc., et vous êtes en mode mais non, mais ça, c'est encore des petits rigolos de lanceurs d'alerte ou de trucs comme ça qui s'inquiètent de ça. En fait, on s'en fout complètement. C'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Les prochaines années vont être très, très étranges, surtout si on ne fait rien.
On parlait des opties qui sont possibles. Même les téléphones évoluent et de plus en plus dans les CPU de ton téléphone, t'as des parties qui sont optimisées pour les IA, etc., qui fait que tu consommes moins, tu peux faire tourner des modèles plus lourds. Donc,
c'est sûr qu'on aura des LLM qui vont tourner sur nos téléphones.
Ouais.
Moi, je me souviens il y a déjà quelques années où on pouvait aller sur le dashboard Google, je pense que c'est toujours le cas, et on avait les enregistrements quand on prononce le fameux mot. Mais rien que ça, c'était un peu flippant de savoir que sur votre compte Google, sur les serveurs de Google, il y a toutes vos voix quand vous donnez une action. Et en fait, le plus probable, c'est que de plus en plus, le fameux Robert Reeve disait dans son tweet, on a lâché sur la vie privée, on a lâché le combat, et qu'en fait, on va nous écouter avec nos semi-consentements, donc c'est-à-dire avec des conditions d'utilisation qu'on va de plus en plus accepter, qu'on va de plus en plus rogner sans jamais trop franchir la ligne de on vous écoute sans que vous le sachiez jamais, parce que ça, je pense que c'est beaucoup trop impopulaire. Sans doute qu'il y en a qui vont faire une bêtise et qui potentiellement vont être condamnés, hein, mais potentiellement c'est deux entreprises. Mais par contre, la frontière on se fait écouter avec notre semi-accord et c'est vraiment utilisé pour des pubs, ça, je pense que c'est ce que m'a fait réaliser ces deux articles.
C'est
une chose, c'est bien ça, c'est très très proche.
Hautement probable. Imagine le truc où tu viens de poster ton TikTok. Un peu plus tard, tu reçois un petit mail ou une petite pub en mode. On dirait que votre pull est un peu usé là. vous voulez pas en acheter un autre? Non, mais c'est sûr. Mais évidemment qu'on va avoir des trucs comme ça.
Ou ça va pas être ça. Ça va pas être vous voulez pas en acheter un autre. Ça va être hop, petite pub affichée sur Amazon d'un pull bizarrement qui ressemble pas mal.
C'est clair.
Ça va être ça. Et du coup, toi, tu te dis pas, je me suis fait avoir.
Ouais, c'est ça.
Tu te dis, il faudrait que je le change.
Ou alors, vous avez pris un peu de poids quand même.
Oh, ça.
Mais évidemment. Depuis un an, on a remarqué que sur TikTok, là, vous avez pris un peu des joues, non?
Les fêtes, hein. Les fêtes,
Un petit régime quand même,
Oh putain.
Ouf! Ça donne des frissons.
Je voulais rebondir sur un truc qui est venu dans le chat et qui est un argument classique. Les gens demandent justement le fameux Bip Google, comment est-ce que ça fonctionne? Puisque si tu veux le déclencher n'importe quand, il faut aussi que ton téléphone fonctionne en permanence.
Oui, c'est vrai.
Pour expliquer celui-là,
oui.
Le principe en fait, c'est que t'as des modèles très légers qui tournent sur ton téléphone et uniquement sur ton téléphone qui vont essayer de détecter ce fameux mot-clé. Et c'est seulement quand ils pensent que t'as dit ça qu'il va commencer à effectivement enregistrer et envoyer à Google, pas avant. Et d'ailleurs, la détection est pas parfaite, ce qui fait que ce que tu disais site, parfois, donc sur Google, tu peux avoir tous les enregistrements des commandes que t'aurais envoyées. Et parfois, t'en as qui ne sont pas des commandes que t'as envoyées parce que ton téléphone a pensé que t'as dit le mot-clé et juste à une conversation qui n'a rien à faire là. Qui est partie toute seule.
Et c'est à partir du moment où j'ai découvert cette page, c'était il y a quelques années et tout, j'ai désactivé le fameux mot-clé à la voix. Tu peux décider de l'activer juste en appuyant soit sur un bouton physique, soit sur un... Bref.
Mais c'est ça, c'est la même polémique qu'il y avait eu sur l'appli photo de l'iPhone.
C'était quoi ça?
Sur l'analyse des contenus?
Non, mais sur le fait que, tu sais, quand tu prends une photo sur l'iPhone, en fait, ça prend une vidéo.
Ah oui.
Ah, des instants.
Mais c'est une vidéo genre des deux secondes d'avant et des deux secondes d'après.
Oui. Du coup, le live photo.
Du coup, t'avais des gens qui étaient en mode, attends, mais quoi? Mais ça veut dire qu'ils nous suivent, ils nous regardent tout le temps. C'est ça l'explication. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment juste le concept du buffer finalement. Enfin, c'est vraiment juste ça.
Ouais, mais je peux comprendre que ça fait flipper.
Ouais, non, mais je suis d'accord que si effectivement tu sais pas trop comment ça marche, tu peux te faire effrayer. Mais vraiment, c'est juste qu'il y a deux secondes constantes de vidéo qui sont gardées. Un peu comme un replay à la télé, en fait. C'est vraiment le même concept. Ouais.
mais en fait, ce qui est différent avec le... ce qui est différent avec le Google, c'est qu'il pouvait mal détecter.
Oui, oui.
Du coup, tu avais des enregistrements qui se retrouvaient pas dans ton buffer, mais bien sur ton compte Google. Alors que sur la photo, a priori, si tu cliques pas sur la photo, ton buffer, il est pas utilisé. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. mais voilà.
Muy bien. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair. Moi, franchement, c'est blog post. Ça aurait été publié... Tu as un contrôle, un truc comme ça, ça m'aurait pas étonné, quoi. Mais j'ai toujours un peu de mal à y croire, en fait.
Mais pareil. Mais tu vois, le podcast là où il y a 50 vues, il y a réellement 50 vues, le journaliste, il a retrouvé ça, quoi. Et la discussion, elle est lunaire, quoi. Alors, je comprends pourquoi ça a 50 vues, hein, mais non, en plus, c'est bien produit et tout. Mais tu te dis, en fait, il a vu ça en ligne et il a retrouvé quelques jours après le podcast et tout, machin.
C'est fascinant.
C'est fascinant. Bravo à eux, en vrai. Moi, j'attends de... En fait, ils ont fait une petite série. Du coup, j'attends de voir un peu le fin mot de l'histoire.
Je suppose que ces boîtes-là n'ont pas spécialement communiqué sur... ils ont fait du marketing sur le produit qui existerait, mais pas du tout sur la solution qu'il y a derrière.
Non. C'est le problème. Ils ont communiqué dessus, mais...
Ils n'ont pas essayé de glisser des mots-clés, une petite piste ou tout, non, c'est vraiment...
À part citer des partenaires avec qui ils travaillaient. Et globalement, ils disaient, on rassemble toutes les données sur des choses qu'on propose à nos clients, et il se trouve que maintenant, en plus des données que vous avez l'habitude, il faut prendre en compte la voix, c'est l'avenir, quoi.
Ok.
J'ai une info de chat qui, attention à prendre avec des gigapincettes, mais je la trouve... fascinante. C'est un père de famille a été banni de Google car il avait pris en photo ses enfants dans le bain nu et les serveurs ont cru que c'était des images pédocriminelles.
What?
Genre la backup sur Drive qui...
Alors je sais pas si c'est sur Drive, mais moi ça m'étonnerait pas parce que je sais, j'avais fait des recherches pour la vidéo sur les disques durs où j'avais parlé un peu de forensique. Mm-hmm. Et je sais qu'il existe pas mal de projets de détection.
Ah oui.
D'accord. Bon, si c'est de New York Times, a priori, j'ai chance de croire que c'est vrai. On avait parlé justement de ces systèmes qui sont utilisés pour faire des scans de librairies photos. Et pour vérifier, ils comparent ça avec des bases de données connues, des services de police, etc., que t'as pas des images illégales, quoi.
Et c'est concret, même c'est Apple qui avait essayé de faire ça. Ils prenaient des empreintes des images, ils expliquaient que ça comparait localement, mais ça avait fait énormément de bruit, quoi.
Mais je sais que c'est Microsoft a publié, pour le coup, qu'on peut utiliser si vous êtes développeur et que vous avez ce genre de truc. Microsoft, c'est un très bon outil qu'ils ont publié. Parce qu'Apple, tu peux pas l'utiliser, je crois, leur outil. Et ils avaient documenté, c'était super intéressant, ils expliquaient comment ils faisaient, justement. J'ai oublié le nom, mais je me demande si on n'en a pas déjà parlé de ça.
Dans la vidéo en question, ouais.
Mais c'était sur Underscore ou c'était sur...
C'est Photo DNA.
Ah, oh, merci.
Et on en a parlé quand on a fait la vidéo sur les disques durs.
Exact.
Mais ok.
Non, c'était pas dans Underscore.
Parce que j'ai l'impression de moi d'en avoir parlé, mais... Ah, parce qu'on avait dû en parler. Bref, ok.
C'est ça. oui, mais je pense que c'est peut-être dans... Il y a une interview de toi à la fin. C'est peut-être ça. Je sais plus. Bon, bref. Sans plus attendre... nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère qu'on a bien fait de l'affaire, que vous êtes contents que malgré le silence de mort qu'il y a sur Twitch cette semaine, vous avez eu une petite émission. Et nous, on se retrouve dans deux semaines, mercredi à 19h. Et nous, on va aller bouffer des pizzas.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Je suis shooté. En fait, je pense que je suis malade un peu.
Ah, ouais, ça s'est senti sur le reniflement juste à la fin, mais...
Je pense que je suis malade, mais ça me saoule parce que j'étais déjà malade, je crois, il y a genre 12 semaines.
Ouais, juste avant les émissions.
Avant les vacances et après, c'est bien.
J'ai eu le temps de perdre ma maladie, de me confiner socialement.
Peut-être le ski de rando, ça.
C'est toujours comme ça. et pour rattraper un truc. Bon, je vais me remettre d'ici la prochaine fois. En tout cas, très bonne soirée. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch.
À dans deux
semaines. Salut.